Bonjour à vous. Donc, nous sommes réunis autour de la table ronde intitulée Mixité, égalité
et quoi ?
Et émancipation. Alors, dans un premier temps, je vais donner la parole à mes collègues pour qu'ils et elles se présentent très rapidement. Alors, je vais peut-être commencer par ma droite, Caroline, si tu veux bien.
Oui, volontiers. Donc, je m'appelle Caroline Daillère, je travaille au canton de Genève. Après 13 ans en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, je suis passée au canton. Et je parlerai tout à l'heure de l'articulation entre sciences de l'éducation, travaux académiques et puis politique éducative.
Donc Gaëlle Pasquier, maître de conférence à l'Université Paris-Est, Créteil, formateur en SP, et je travaille essentiellement sur les pratiques enseignantes en faveur de l'égalité des sexes et des sexualités et les politiques éducatives qui concernent aussi ces deux domaines.
Alors Nicole Mosconi, je suis professeure émérite, j'étais professeure à Paris-Nanterre et j'ai travaillé sur la mixité scolaire, sur le genre et sur l'éducation et genre et rapport au savoir.
Fabrice Dumois, je suis sociologue, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Diderot et je suis au laboratoire URMIS, unité de recherche migration et société. Je travaille aujourd'hui principalement sur les questions de discrimination, de racisme et de rapport ethnique à l'école et plus largement dans le champ éducatif.
Alors, enfin, on devait avoir une dernière participante, Marie Durubella. Et en raison des grèves SNCF, elle ne sera pas parmi nous. Pour autant, elle m'a adressé un texte que je lirai plus tard en cours de table ronde en rapport avec les axes de questionnement qui vont être les nôtres pendant cette table ronde. Alors, la manière dont j'ai pensé cette table ronde, en relation avec les objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre du colloque, donc ce qu'on voulait pour ces 50 ans d'existence de la discipline universitaire des sciences de l'éducation, et je cite un extrait de l'argumentaire de ce colloque, donc c'était à la fois apprécier le chemin parcouru, examiner la situation contemporaine et regarder vers le futur. Et donc ce qu'on va essayer de faire pendant cette table ronde qui se veut la plus interactive possible, donc ça va être justement d'aborder ces questions d'inégalité au pluriel, de mixité et d'émancipation au pluriel, selon ces trois axes temporels. Alors on va d'abord, on va faire un premier tour de table, où je vais inviter chacun à revenir sur le passé, donc pour un petit peu nous dire comment ces questions de mixité, d'inégalité au pluriel, et chacune déclinera justement ce que ça revêt en rapport avec ses propres thématiques de recherche. Donc comment ces trois questions, inégalité, mixité et émancipation, ont pu être travaillées, s'imposer dans le champ des travaux en éducation et en formation, de manière très large, et de manière plus précise en sciences de l'éducation. Et je commencerai par donner la parole à Nicole Mosconi, qui est l'une des... Enfin, elle va nous dire, justement, comment elle a pu œuvrer dans ce champ. Donc, je te laisse la parole, Nicole, rapidement, puisque ce sont les consignes que j'ai données à chacun dans cette table ronde, des présentations brèves pour qu'il y ait vraiment des échanges d'abord entre les membres de la table et puis qu'on puisse ensuite engager une discussion aussi avec la salle.
Merci Nassira. Je vais faire un très rapide parcours de ce qui me semble, ce qu'on peut dire sur la question du genre en éducation. En commençant par dire que c'est tardivement, finalement, qu'on s'est intéressé à cette question. La question est plus jeune que les sciences de l'éducation elles-mêmes. Car dans les années 60-70, la sociologie de l'éducation, mais les sciences de l'éducation aussi, sont fortement polarisées sur la question des inégalités sociales, ce qui évidemment est très très important, c'est pas pour dire que c'est pas important, mais On nous dit, par exemple, dans certaines sociologies, que le sexe est une variable secondaire. Bon. Il y a tout de même, je voudrais signaler, parce que je trouve que c'est très important, à partir de la naissance du mouvement féministe, donc en 1975, une chercheuse sociologue qui est Liliane Candel, qui publie un texte, évidemment c'est pas très canonique, mais quand on voit le texte, il est très sérieux, où elle critique toutes les grandes sociologies et d'autres travaux aussi, ceux de l'INETOP, enfin, en montrant cette espèce d'invisibilité de la question du sexe, même quand la variable est prise en compte, mais on n'interprète rien. Et elle montre justement que finalement, c'est plus que secondaire. Elle donne cependant quelque chose qui m'a tout à fait paru intéressant, un programme de recherche, en disant, à la fin de son article, qu'il faudrait faire une place importante au phénomène de transmission idéologique, d'apprentissage mutuel des rôles sexués de domination et de subordination à l'école et ailleurs, et enfin, une observation systématique, disait-elle, des interactions effectives entre sexes dans les groupes peu formels et dans les institutions scolaires. Je trouve que c'est important parce que c'est très 1975, hein, bon, c'est un moment où les choses, on ne le travaille pas encore. Hein. Alors, si on passe maintenant aux années 1980, où justement, il arrive à l'université des femmes qui ont repris des études souvent hein, et qui continuent leurs études et qui se mettent à faire de la recherche, on va trouver une transformation des problèmes où on ne se contente pas de regarder les problèmes d'orientation des filles, hein, comme c'était auparavant, et où on se met à prendre en compte non seulement des différences entre les filles et les garçons, comme on faisait jusque-là, mais on prend en compte des inégalités entre les filles et les garçons. Et c'est le moment où on introduit des questions comme celles de rapports sociaux de sexe et de transversalité de ces rapports, c'est-à-dire qu'entre autres, eh bien, ils traversent le système scolaire et ils créent ce qu'on pourrait appeler un ordre sexué dans le système scolaire qui produit justement de l'inégalité entre les sexes. Les années 90, elles, se caractérisent par une chose nouvelle qui est ce que l'on a appelé, hein, c'est pas moi qui ai trouvé le terme, une ouverture de la boîte noire de l'école, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder simplement les entrées et les sorties du système scolaire pour mesurer les inégalités en faisant des statistiques, on se met à regarder à l'intérieur de ce qui se passe à l'école pour précisément comprendre comment fonctionnent les processus de cet ordre sexué. Et on arrive à travailler sur des questions comme les relations entre enseignantes, enseignants et élèves dans les classes, et à partir de concepts comme par exemple celui de double standard dans la manière d'évaluer ou d'évaluer à la fois les comportements et les résultats scolaires, des concepts comme effet Pygmalion et aussi le concept de curriculum caché qui, je pense, était utilisé jusque-là essentiellement pour analyser les phénomènes concernant les inégalités de classe et qui peut se transposer assez clairement dans les questions d'inégalité de sexe, aussi bien en ce qui concerne les rapports dans le système scolaire que toutes les questions concernant les curricula. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à parler de genre, mais pour ma part, je continue à le concevoir comme des rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire essentiellement comme une question de pouvoir et d'inégalité, et pas seulement comme une question de différence. Bon, j'arrive juste à un quatrième moment, peut-être après les années 2000, où je pense qu'arrive la question de « mais il n'y a pas seulement les inégalités de classe et les inégalités de sexe, mais il y a aussi d'autres formes d'inégalité, il y a aussi de la discrimination », le terme étant introduit à partir des injonctions venant de l'Europe, d'ailleurs, hein, et justement toute une série de situations de minoritaires où des inégalités sont mises en évidence du fait de la question de l'immigration, de la question des orientations sexuelles, etc., etc. Peut-être je dirais aussi des questions d'âge, car la question du rapport entre l'adulte et l'enfant est aussi un rapport de pouvoir. Bon, je m'arrête là.
Alors, je vais donner la parole en son absence à Marie Durubella, qui est justement revenue, hein, qui revisite l'ensemble des recherches qui ont pu être menées. Alors, même si la mixité n'a guère été pensée comme telle dans notre pays, sa diffusion dans les années 1960 a été considérée comme vecteur d'égalité. En éduquant ensemble les filles et les garçons, on entendait pas seulement, c'est déjà beaucoup, concrétiser l'égalité de droit, en l'occurrence le droit à l'instruction entre tous leurs citoyens, une visée plus ou moins explicite, et de réaliser ainsi ce qu'on appelle une coéducation, à savoir apprendre aux jeunes des deux sexes à se connaître et à vivre ensemble, comme ils et elles sont amenés à le faire une fois adultes. Mais déjà, il y avait en filigrane l'idée, la conviction, que filles et garçons, femmes et hommes, sont différents, et que s'il y a besoin de les coéduquer, c'est précisément pour leur apprendre à accepter et à gérer, entre guillemets, ces différences. De nombreux travaux, avec comme pionnières des chercheuses comme Claude Zeidman, qui a travaillé sur l'école primaire, ont montré dans les années 1970-1980 que l'école était de fait l'école du genre. L'école va faire avec les élèves tels qu'ils et elles sont. Les tout jeunes enfants qu'accueille l'école sont déjà des petites filles et des petits garçons. Elles et ils ont grandi dans des familles où leur père et leur mère se comportaient en hommes ou en femmes. Et de plus, ces derniers ont cherché à développer chez eux tout ce qui est conforme à leur sexe. Pour les filles, apprentissage de la gestion de ses émotions, des relations interpersonnelles et du langage, mais aussi d'un certain conformisme face aux adultes et d'un manque de confiance en soi. Pour les garçons, encouragement à l'autonomie, à l'exploration, avec à la clé un plus fort sentiment d'efficacité personnelle, mais une moindre préparation à gérer leurs émotions, du moins sur la base du langage. Les interactions maître-élève vont en porter la trace. Il n'y a pas de raison que les enseignantes, enseignants eux-mêmes, ne partagent pas tout ou partie des stéréotypes qui caractérisent la société où ils et elles évoluent. En particulier, certaines disciplines scolaires sont jugées plus masculines ou féminines. Ainsi, très tôt, avant même toute apparition d'inégalité de réussite, les maîtres, maîtresses, encouragent moins les filles en mathématiques, sans se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils poussent plus les garçons. Les contenus de formation, les textes au programme, les manuels ne sont pas en reste. Les filles découvrent en histoire que les femmes semblent rares parmi les grands hommes, entre guillemets, ou encore en philosophie, mais tout ça c'est ce qui a été travaillé par Nicole Mosconi, que les plus grands philosophes semblent bien péremptoires dans leur dénigrement des femmes. Ces contenus sont le miroir de la société et forment ce qu'on appelle un curriculum caché, pas officiel, mais bien réel. Ce curriculum est mis en musique dans des classes mixtes avec des élèves qui ont intériorisé les stéréotypes du féminin et du masculin. Les jeunes cherchent à s'affirmer et à se plaire. Et cela passe pour les filles par une obsession de leur apparence et pour les garçons par une multitude de violences minuscules qui s'expriment vers 12-15 ans dans les cours de récréation. Et donc c'est ce qu'a travaillé notamment Claude Zeidman. Donc dans les cours de récréation notamment, par des insultes, des bousculades, sous l'œil souvent assez passif des adultes, tant cette violence sexiste est banalisée et considérée comme normale à cet âge. À partir des années 1990, des travaux sur les effets spécifiques des classes mixtes, avec notamment un numéro coordonné par Marie Durubella, c'est moi qui le dis en incise, de la Revue française de pédagogie en 2010, même si les résultats ne sont pas toujours tranchés, il est clair que la mixité n'est pas suffisante pour conforter l'égalité, et c'est déjà ce que Nicole Mosconi avait mis au jour dans ses travaux. Certains travaux de psychologie sociale permettent de comprendre pourquoi. Il y a tout d'abord cette menace du stéréotype qui, dès lors qu'un élève aborde une tâche ou du fait de son sexe, il ou elle est réputé avoir des difficultés spécifiques, accroît ses chances d'y échouer. Mais il faut compter aussi avec le fait que dans un contexte mixte, les jeunes des deux sexes ont à s'afficher comme différentes différents de l'autre, filles et non garçons, et vice-versa. De fait, ils et elles vont se montrer et même s'éprouver comme plus ou moins masculins ou féminines, selon le contexte, mixte ou non mixte, dans lequel se situe l'interaction. Les jeunes vont aussi exercer une police des mœurs réciproque dans le sens de la conformité, et ceci vaut aussi pour les adultes. Donc voilà pour le balayage que propose Marie Durebella. Donc je vais passer la parole peut-être à Fabrice pour prolonger ce que Nicole a pu mettre en lumière à la fin de sa présentation.
Oui, on n'a pas l'habitude de le poser comme ça, mais il y a beaucoup de points communs ou de parallèles qui sont à faire sur la question qu'on pourrait dire ethno-raciale, puisque c'est aussi dans les années 70 que les choses se nouent, et on a des travaux qui existent de la fin des années 70 qui posent la question, et notamment qui formulent les choses explicitement en termes de discrimination raciale. Voilà, les premiers travaux que j'ai trouvés pour ma part, ils relèvent de cette époque-là. Simplement, une des difficultés, c'est que ça reste une histoire cachée pour des raisons diverses et variées, mais globalement qu'on pourrait résumer aussi de rapport de force à l'intérieur du champ de la sociologie de l'école. Il y a ce qui a été dit par Nicole tout à l'heure, il y a la prééminence de la question de la classe sociale, avec ce qu'on retrouvera dans toute l'histoire et qui vaut encore dans les débats aujourd'hui, toujours la crainte que ramener une autre question d'un autre rapport social, d'un autre rapport de domination, n'est pour effet d'évacuer ou d'amoindrir, au fond, la portée d'une réflexion sur les classes sociales. Voilà. On va le retrouver dans la discussion qu'il y aura entre les rapports sociaux de sexe et les rapports sociaux dits de race. Il y a une particularité peut-être du point de vue de la question ethno-raciale, c'est que les années 70, c'est aussi le moment où le ministère de l'Éducation nationale met des dispositifs autour de la question des enfants d'immigrés, de l'apprentissage des langues, langues et cultures d'origine, etc. Et se développe autour de ça un discours psychoculturaliste qui va avoir des effets très importants et très durables, et qui va occuper, j'ai envie de dire, un petit peu le devant de la scène. Et tous les travaux des années 70 et encore jusque dans les années 80, ils sont centrés autour des problèmes d'adaptation des enfants d'immigrés, ou ce qui est supposé être des problèmes d'adaptation. Donc on a un prisme, si vous voulez, qui va être extrêmement durable, qui va poser la focale sur les élèves et leurs supposées différences, leurs supposées particularités. D'accord. Ce qui sera contesté en partie dans les années 80, puisqu'on va avoir dans les années 80 un certain nombre de discours en disant « le problème est mal posé ». Mais on va dire qu'il est mal posé pour réintroduire la prééminence de la classe sociale, et non pas pour réfléchir à une autre manière de poser les questions ethno-raciales. Et il faudra attendre, si vous voulez, la fin des années 90 et l'introduction de ce que Françoise Lorcery appelle le paradigme de l'ethnicité, pour qu'on commence à penser les questions ethno-raciales, non pas à partir de présupposés de quelque chose d'essentiel ou même de substantiel, mais pour penser qu'on a affaire là à des rapports de pouvoir qui ont pour effet de produire des catégories vues dans nos têtes, ou vues comme des races, des ethnies ou des groupes ethniques, des cultures différentes, etc. Il va falloir attendre donc ce renversement paradigmatique. La dernière chose peut-être qui me paraît important à dire, c'est que tout ce débat sur est-ce qu'il y a une question de racisme, par exemple, à l'école, on voit des textes à la fin des années 70 et des années 80, alors qui ont du mal à se dégager d'un discours militant qui a tendance à dire il y a du racisme, l'école est raciste, etc., à accuser, si vous voulez, sur ce mode-là, et pas forcément à aider exactement à comprendre les mécanismes par lesquels ça passe. Mais la grande difficulté de l'époque, c'est aussi le moment où, dans la société française, l'extrême droite s'impose dans l'arène politique, et une partie des chercheurs, à mon sens, sont mal à l'aise avec la possibilité de poser cette question-là, par crainte que poser la question du racisme ou poser la question des différences qui s'exprimeraient sous le mode de groupes ethniques différents pourrait alimenter, au fond, le fonds de commerce de l'extrême droite. Voilà. Donc c'est vraiment ce tournant à un moment donné, si vous voulez, du paradigme de l'ethnicité, c'est-à-dire qu'elle mène à penser les choses en termes de rapport de pouvoir ou de rapport de domination et pas d'une espèce de substance primordiale que serait la race ou l'ethnie ou la culture. Voilà. Il faut attendre ce tournant pour que ça commence à se dégager. Il restera, mais ça on en discutera, le fait que malgré tout, ces questions demeurent assez peu légitimes dans le champ de la sociologie de l'école.
Merci Fabrice. Gaël ?
Peut-être pour poursuivre un peu la réflexion engagée par Nicole, dire qu'à partir des bases qui ont été posées autour des questions du curriculum caché, etc., on est dans un champ et des questions et des analyses qu'on réussit toujours à se préciser et à se renouveler. C'est-à-dire qu'on a commencé par exemple à retester dans le champ français des résultats qu'on avait eus dans les travaux de langue anglaise autour des interactions maître-élève avec cette règle des deux tiers, un tiers, à commencer par à remettre en place ces protocoles dans le champ français. Nicole l'a fait avec Josette Poudet-Verdier, ensuite repris par Annette Jarlégan avec des comptages toujours aussi fins, mais qui permettaient aussi d'actualiser des résultats qu'on pouvait considérer comme un peu anciens. Et puis, petit à petit, à chercher à voir d'autres paramètres autour, justement, de la logique des acteurs et peut-être plus centré sur les élèves, avec les travaux d'Isabelle Collet autour de la question de l'humour en classe, et de voir comment est-ce que les élèves pouvaient investir ces stratégies et comment finalement les rapports de pouvoir se reconfiguraient autour de ces questions. Et donc, petit à petit, donc, reprendre ces travaux à frais nouveaux, en didactique de l'EPS, s'intéresser justement à tout ce qui est du domaine de la gestuelle et de la proxémie. Chantal Amadesco est là, mais avec les travaux qui ont été menés par Catherine Vincent, se rendre compte que finalement, à travers ces interactions en classe, on n'était pas uniquement sur des inégalités de prise de parole, mais qu'on était aussi sur des inégalités de rapport au savoir et de construction au rapport au savoir. Donc petit à petit, donc, de repréciser les choses, de les renouveler et de se dire qu'on ne pouvait pas. On était toujours tenu de remettre en question les choses. Et d'une certaine manière, ça s'est aussi passé aussi sur tout ce qui est support scolaire, et notamment quand on regarde un peu sur la littérature de jeunesse ou même les manuels, de dépasser la question à un moment donné des modèles qui sont proposés aux filles et aux garçons, même si on a toujours un certain nombre de recherches qui réactualisent les données et qu'elles sont toujours utiles, mais de se dire que, au bout du compte, c'est Isabelle Collet qui précisait ça récemment, qu'on regarde les sciences et qu'on se dise que finalement, il y a un manque de modèles pour les filles. Oui, c'est vrai, mais si on va en histoire ou si on va en littérature ou en philosophie, on a aussi un manque de modèles qui est proposé. Ça n'empêche pas qu'elles s'investissent dans ces filières. Et que peut-être de ce fait-là, là aussi, c'est aussi intéressant d'aller voir comment est-ce que les élèves vont s'approprier les choses, ne vont pas être passifs par rapport à ces modèles. Et c'est vraiment des analyses qui émergent, je pense, actuellement avec les premiers travaux sur qu'est-ce qui se passe quand on propose une littérature non sexiste ou antisexiste en classe, ou qu'est-ce qui se passe quand on lit ces ouvrages et comment est-ce que les élèves vont les approprier, vont prendre des libertés par rapport à eux et par rapport à certaines interprétations qui seront peut-être trop celles que pourraient avoir les adultes. Avec quand même dans ces travaux, pour l'instant, il me semble peut-être une sous-estimation du rôle que pourrait avoir l'école et souvent des protocoles méthodologiques qui mettent en place avant tout des lectures et puis tout de suite une interprétation de l'enfant sans médiation entre les deux qui pourrait montrer à un moment donné quel rôle les enseignants peuvent avoir vis-à-vis justement des représentations que vont se construire les élèves et les interprétations qu'ils peuvent mettre en place. Et donc je trouve que dans ce champ, ce qui est à un moment est donné était stimulant, c'est de pouvoir voir comment est-ce que ces mêmes questions sont retravaillées toujours et se transforment petit à petit.
Merci Gaël. Alors on va essayer de déplacer notre regard, c'est pour ça qu'on a invité Caroline, pour ne pas rester dans le contexte franco-français. Donc si tu veux...
Volontiers. Comme il y a plusieurs coups de balai qui ont été passés, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais ça me fait penser aussi à ces aspects de réactualisation, ou en tout cas On s'est beaucoup concentré à un moment donné suite à la question des supports en tant que tels ou du matériel pédagogique, finalement à la posture professionnelle qui était restée un peu impensée. Et la posture professionnelle en tant que telle, grâce aux sciences de l'éducation, elle a été investie non seulement à l'école, mais aussi dans la formation professionnelle et aussi dans l'enseignement supérieur. Donc on a vu aussi pas mal de guides qui ont fleuri suite à ce type de réflexion et de réactualisation des recherches. Et c'est intéressant parce que du coup, on parlait de la diversification des supports, mais aussi la question du langage qui a été justement investi, bien évidemment, avec ces questions de langage épicène, langage inclusif, mais où on a vu que la question du langage en tant que tel est partie intégrante de la posture professionnelle. Donc un angle, en tout cas, qui a beaucoup été investi, c'est celui-là de se dire, et je ne le répéterai pas, il y a la question, bien sûr, des enseignements en tant que tel, mais aussi la question des évaluations, parce qu'on a parlé des supports pédagogiques, mais il y a aussi comment on va évaluer. Donc une vraie réflexion qui a eu lieu sur la diversité des évaluations qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et cette réflexion sur le genre, elle a abouti aussi à quelque chose qui est très lié à l'école inclusive. Donc c'est une autre manière encore aussi d'amener une nouvelle pièce de puzzle, parce que finalement, se dire par exemple, on va faire des évaluations orales et écrites en groupe et individuelles pour essayer de varier le plus possible, non seulement le développement des compétences, mais la façon de les évaluer. C'était aussi une manière de se rendre compte que ce qui se faisait sur les questions de genre permettait de penser aux questions plus générales des discriminations et des violences. Donc ça, c'est aussi un pas qui a été fait, en tout cas aussi à Genève, par exemple, très dernièrement, sur de nouveau, quand on parle de l'école, on parle beaucoup aussi de documents administratifs. Il y a les fiches des élèves peuvent être extrêmement sexistes ou genrées, par exemple. Et notamment pour les familles arc-en-ciel, c'est-à-dire les familles où il y a au moins une personne qui se considère comme lesbienne, gay, bi ou trans ou intersexe. Bon, vous voyez que ces personnes devaient se mettre dans la case logeuse. Et du coup, pour les élèves, c'était compliqué, pour les adultes aussi, les directions également, et les familles aussi. Donc, à cette question, justement, de se dire, mais si on mettait parents et parents, ce qu'on a pu remarquer, c'est que du coup, plein de familles ont pu enfin se reconnaître dans ce formulaire-là. Donc, c'est une manière aussi de dire que les questions dont on parle, c'est une façon de préciser des fois certains problèmes, mais finalement, ça porte justement davantage d'inclusivité. Et je terminerai aussi sur ce qui a été dit, à savoir cette articulation entre sexisme, racisme, homophobie, transphobie, et puis la question des situations de handicap, où le défi, à mon avis, on en parlera certainement plus tard, c'est de montrer les mécanismes transversaux dans les contextes éducatifs et de formation, mais de ne pas perdre de vue qu'en fait, ces aspects-là ont des spécificités aussi. Donc on pourra certainement en parler, mais je pense que l'enjeu actuel, comme on va passer après à maintenant, c'est vraiment comment on peut faire cet ascenseur-là entre les aspects plus généraux pour que tout le monde s'y retrouve, pour avoir un aspect fédérateur, mais de ne pas oublier justement la question plus spécifique des vécus en tant que tels.
Merci. Alors, je voudrais réagir tout de suite donc par rapport à ce que vous avez présenté les uns et les autres. On a entendu que depuis les années 60, au moins, on avait un certain nombre de travaux de recherche qui avaient été réalisés. Donc j'aimerais vous entendre sur savoir comment on a réussi ou non, puisqu'on est en sciences de l'éducation, à capitaliser par rapport à ces résultats de recherche. Et puisque tu viens d'évoquer, Caroline, la question de la formation, donc à la fois de la formation des personnels enseignants et des personnels éducatifs, et puis la formation professionnelle, donc comment ça a pu irriguer justement ces champs-là de la formation, à la fois personnel enseignant éducatif et de manière beaucoup plus large. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Fabrice ?
Là, pour le coup, je pense que les histoires sont peut-être un petit peu différentes, c'est-à-dire si je raisonne en termes d'institutionnalisation ou d'état de l'institutionnalisation, si on raisonne sur les rapports sociaux de sexe ou si on se rapporte sur les rapports sociaux dits de race. Si je suis sur ce deuxième versant, il n'y a pas du tout d'institutionnalisation, d'une part, et d'autre part, c'est une question qui est extrêmement ou faiblement légitime. Voilà. Avec sans cesse des controverses, mais on y reviendra aussi parce qu'elles valent aussi sur la question dite du genre, théorie du genre, etc. C'est-à-dire, au fond, il y a à la fois du commun et puis un degré d'institutionnalisation, me semble-t-il, différent. Alors, si je raisonne du point de vue de la question ethno-raciale, je pense qu'il y a trois obstacles à l'intérieur du champ qui rendent particulièrement les choses particulièrement difficiles. Il y a une segmentation du champ de recherche qui fait qu'on a tendance à penser certaines questions comme étant des publics particuliers. Donc on a des études sur les tziganes et les roms à l'école, on a des études sur les enfants d'immigrés à l'école, et à côté on a des travaux sur l'égalité qui eux font comme si ces publics n'étaient pas concernés. Donc ça génère des travaux dominants qui disent il n'y a pas de problème de discrimination, sauf que, j'aurais dire, structurellement, on traite de manière particulière, y compris le problème sociologique, si vous voulez, de cette affaire-là. Il y a un vrai défaut de raisonnement systémique à l'échelle du système scolaire, sur la manière dont il conduit justement, précisément, à catégoriser, classer et traiter à part certaines gammes ou certains groupes, voilà, pour ensuite dire ben, il n'y a pas de problème, puisqu'ils sont tellement différents que ça justifie. Et là, je pense que c'est un problème qui est structurel, y compris dans le champ hein, de la sociologie de l'école. Deuxième élément, c'est que, là aussi, élément structurel dans le champ de la sociologie de l'école, c'est que la majorité des travaux qui sont produits autour des questions dites de l'immigration, etc., expliquent, si vous voulez, les inégalités par les publics. C'est-à-dire qu'on pense soit des questions de position sociale, soit des questions de disposition dans le rapport à l'école. Mais jamais ou rarement, on se pose la question de la manière dont l'école traite les publics et dont l'école produit de la différence, qu'ensuite, d'une certaine manière, elle va trouver légitime de traiter à part et de manière particulière. Je crois qu'il y a lieu de renverser la chose. Et la question de la discrimination, c'est exactement ce renversement paradigmatique, c'est-à-dire c'est interroger la manière dont l'institution traite ou non également les gens. Et quand je dis également, ça ne veut pas dire de la même manière. Hein. Ça recomprend la question qui est souvent dite de l'équité, hein, c'est-à-dire de prendre en compte aussi les besoins éventuellement singuliers. Voilà. Mais on est là sur une question, à mon avis, tout à fait fondamentale. Du coup, la question, les prismes, si vous voulez, un petit peu différents, type l'école traite-t-elle de la même manière ou pas, sont extrêmement rares hein, dans le champ. Il y a très peu de travaux qui abordent les questions sous cet angle-là. Et troisième élément peut-être d'obstacle, on va retrouver ça aussi, à mon avis, dans la question des rapports sociaux de sexe, c'est qu'il y a une prégnance politique, mais qui irrigue aussi dans le champ académique, une prégnance de deux discours politiques. L'un, c'est l'antiracisme mainstream, j'ai envie de dire, hein, le discours antiraciste qui s'est construit progressivement et qui a tendance à nourrir à la fois une espèce de psychologisme ou de logique interculturelle, représenter, valoriser les différences comme si elles préexistaient, et d'autre côté, à nourrir un discours sur l'universalisme aveugle hein, à la question raciale, à générer un tabou autour de ces questions ethno-raciales au point même que ça devient extrêmement problématique de nommer le concept-là. L'autre discours, c'est le discours qui s'est structuré à la fin des années 80 et très poussé par l'arrivée et le retour de la droite au pouvoir, qui était le discours de l'intégration, voilà. Qui, là encore, ferme, si vous voulez, les questions en mettant la focale sur est-ce que les publics s'intègrent, au fond. C'est-à-dire, on entérine cette espèce de regard, bien entendu, qui fait que le problème, il serait à chercher du côté des publics. Et pas à questionner, au fond, les résistances de la société française, de ses institutions, etc., à reconnaître les gens comme étant simplement légitimes, simplement à leur place, etc. Alors, Françoise Lorsery avait montré que ces discours-là, intégrationnistes, les sciences sociales avaient largement contribué à la diffusion et à la légitimation de ce discours nationaliste. Voilà. Donc, il y a aussi, j'ai envie de dire, si on raisonne du point de vue du champ académique, des vraies questions à se poser sur le plan du type de prisme qu'on met en œuvre dans cette affaire-là. Mais à mon avis, on a beaucoup de liens avec la question du genre, et d'ailleurs, c'est assez significatif, c'est-à-dire l'obstacle, ces obstacles de nature idéologique et politique, on les voit refleurir aujourd'hui et simultanément sur la question des rapports sociaux de sexe et des rapports sociaux de race, avec la mise en polémique de la question de la théorie du genre, des ABCD de l'égalité, etc. D'autre part, l'annulation la semaine dernière du colloque sur l'islamophobie à Lyon, la menace qui a failli faire annuler le colloque sur l'intersectionnalité à l'ESP de Créteil. Donc on voit que ces questions sont d'une actualité politique, polémique, extrêmement importante. Et là, je pense que nos questions, enfin, ou ces ces angles d'approche sont comment dire, sous la même difficulté, hein, finalement, de faire valoir la légitimité politique.
Nicole ?
Je vais embrayer parce que finalement, je trouve que ça correspond bien à ce qu'on peut dire aussi du point de vue des questions de genre. Parce que effectivement, on peut d'abord remarquer que il y a deux moments où ces questions semblent devoir avancer. C'est au moment de en 80, de la reprise du pouvoir par la gauche, où il y a eu quelques avancées, et les premiers textes justement qui préconisaient une éducation à l'égalité à l'école. Lesquels textes d'ailleurs il y a des textes, mais l'application des textes c'est autre chose. On a un rapport de l'inspection générale, alors là c'est la deuxième vague au moment de du pouvoir en 2012, de la reprise du pouvoir par la gauche. On a eu un rapport de l'inspection générale qui montre justement que depuis les années 80, il y a des textes, mais que ces textes sont peu appliqués, peu relayés par les responsables administratifs de l'éducation nationale, ils arrivent peu aux praticiens de l'éducation, les profs, etc. Et que, en tout cas, à ceux qui arrivent et qui simplement appliquent les textes, on leur reproche d'être des militants. Justement. Bon. Je voudrais, par rapport à ça, justement souligner qu'on est vraiment au niveau de problèmes politiques. Et je pense que dans les deux cas, c'est la même chose, parce qu'on est dans des questions qui sont des questions conflictuelles dans la société. Et évidemment, le cas le plus merveilleux, c'est le cas des ABCD de l'égalité, parce que, donc... Pour justement, à la suite du rapport de l'inspection générale, il y a eu une nouvelle convention, puisqu'il y a toujours des conventions justement pour préconiser l'éducation et l'égalité. Bon, une nouvelle convention qui cherchait à avoir une certaine application concrète, un peu plus concrète que ce qui s'était passé jusque-là. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a toute une droite conservatrice, réactionnaire, voire, qui se lève et puis qui profite en même temps du fait que c'est le moment de la loi sur l'égalité, le droit au mariage pour tous, et où justement, donc, on se met à reprendre des thématiques qui existaient d'ailleurs depuis les années 80, venant du Vatican, hein, sur la soi-disant théorie du genre, pour montrer que ça serait une idéologie, là aussi, et les critiques sont les mêmes. Hein. On nous dit que c'est une idéologie. Ces critiques ne viennent pas du tout d'un milieu religieux, non pas du tout, mais c'est le bon sens et éventuellement la philosophie, voire l'anthropologie, qui pense que l'idée du genre, c'est une idée fausse. Et c'est une idée fausse pourquoi ? Parce que c'est une vérité absolue, un dogme presque, de défendre l'idée qu'il y a une différence entre les sexes absolus et une complémentarité des sexes. Les deux étant justement le système idéologique qui fonde l'inégalité entre les sexes et qui le justifie. Alors voilà, on est donc dans un vrai conflit politique, qui est un conflit entre deux tendances, et encore quand je dis deux, je simplifie beaucoup, et par rapport auxquelles, finalement, le politique recule et cède, d'autant plus, je pense, il cède, que le système scolaire lui-même, et quand je dis le système scolaire, je veux dire à la fois les responsables de ce système scolaire et une majorité de praticiens, même s'il y a une minorité très active dans l'autre sens, défend finalement cette idée de la différence et de la complémentarité. Donc là, on est vraiment sur un conflit politique radical, fondamental, entre une véritable défense de l'égalité des sexes et aussi l'égalité avec les minorités et l'égalité des sexualités, et une tendance justement qui, contre ça, s'y oppose d'une manière plus ou moins violente, je dirais, au moins dans ces manifestations. Alors, ceci, et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que ceci se répercute dans la formation des enseignants, qui, jusqu'à maintenant, s'est heurté à des résistances extrêmement fortes, même si, pour certains, cette formation est... Il y a des militants qui essayent justement de défendre cette formation, mais il y a aussi toute une série de résistances qui se posent à elle. Bon, voilà, j'arrêterai là pour l'instant.
Merci Nicole. Gaëlle ?
Alors c'est vrai que, pour poursuivre la réflexion de Nicole, en 2013, pour la première fois, l'institution se pose un peu la question de savoir comment est-ce qu'elle va enfin pouvoir appliquer ces textes. Et c'est vraiment la première fois qu'on a une volonté politique aussi forte, d'où sans doute les réactions qu'on a eues. Alors on a vu que ça avait tourné court, avec du côté de la formation, l'impression que l'institution à ce moment-là avait mis un peu ses personnels en première ligne, avec tout d'un coup un projet qui entendait les former, mais très rapidement, qui était très très visible, et des enseignants qui se retrouvaient finalement à devoir répondre à des médias et à des demandes en pleine polémique, alors qu'eux-mêmes étaient en réflexion et en construction de ces objets pour leur propre enseignement. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que... ça a attisé peut-être du côté des enseignants certaines formes de méfiance quand l'institution a voulu s'emparer de cette question, enfin a continué à parler de cette question, et avec l'idée qu'il y avait aussi un effet de mode autour de ces enjeux. Mais néanmoins, l'avantage qu'on peut trouver à ces fortes polémiques, c'est que ça a permis que dans l'espace public, ça fasse question, ça engendre une réflexion. Et que les enseignantes et les enseignants ont été pris dans ces discussions, dans cette manière de parler de l'école à partir de ce prisme particulier, et que ça a peut-être permis aussi que... justement, toutes les réflexions qu'il y avait eues sur les résistances en formation puissent avancer vers des résistances qui se manifestaient peut-être plus de la même manière et qui devenaient voilà, des sortes d'évidences qui avaient aussi la matière à problématique et à questionnement. Du côté de la formation, pendant toutes ces années, l'isolement finalement des chercheurs sur les questions de genre, l'isolement des formateurs aussi, a fait qu'il y a eu assez vite, dès les années 2000-2005, l'envie de créer des pratiques collaboratives à partir des résultats de recherche et de la formation des enseignants. Et la publication finalement, c'est un travail qu'on est en train de mener avec Gabriel Richard, d'une trentaine de textes depuis 2005, qui de récits de formation, justement, de comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut transposer, quelle stratégie aussi on peut mettre en place face aux résistances et par rapport à nos analyses du fonctionnement du système de genre. Et se dire que finalement, ces chercheuses et ces formatrices étaient isolées dans leurs institutions et qu'il y avait un besoin absolument de mutualiser et de créer du collectif autour de ce qu'on essayait de faire à sa petite place, et en se disant bah, peut-être que petit à petit on va réussir à avancer. Et je pense qu'on le voit dans les questionnements qui s'est mis en place, on a des stratégies pédagogiques qui s'affinent vraiment, des manières d'associer aussi les enseignantes et les enseignants à la réflexion qui est en train de se mener, qui sont de plus en plus abouties, me semble-t-il, en tout cas à la lecture de ces textes. Il faudrait sans doute aller voir ce qui se passe réellement dans les salles de formation pour les mettre un peu à l'épreuve des intentions et des récits, on peut considérer qu'il voilà, il y a eu cette avancée forte. Là où je pense en 2013 les choses ont commencé à bloquer beaucoup plus, c'est que la conjonction finalement du vote de la loi sur le dit du mariage pour tous, ouvrant le mariage aux couples de même sexe, et des ABCD de l'égalité, fait que en 2013 le ministre annonce à la fois une nouvelle convention sur l'égalité des sexes, et aussi une nouvelle circulaire sur l'éducation à la sexualité. Et on se rend compte que cette nouvelle circulaire, on l'attend toujours, et qu'il y a eu vraiment au sein de l'institution un blocage autour des questions de sexualité, de lutte contre l'homophobie, avec l'idée que finalement, la vraie polémique et ce qui pouvait encore plus attiser les rejets était autour de la lutte contre l'homophobie, et plus on était face à un public jeune et qu'on essayait de prendre en compte ces questions d'hétéronormativité, plus on risquait d'attiser un certain nombre de résistances, étant donné que beaucoup des polémiques des ABCD de l'égalité s'étaient centrées sur les aspects de la sexualité qui étaient supposés être enseignés dans des classes de maternelle. Et finalement, de ce fait-là, je pense qu'on est toujours actuellement dans ce blocage du côté des politiques éducatives, mais si on regarde du côté des recherches, on peut aussi constater que toutes les recherches autour des... Et Caroline, tu pourras sans doute préciser les choses, mais autour des questions d'homophobie dans le système scolaire, restent finalement dans le champ français assez peu développées. Quand on est obligé d'avoir des chiffres sur justement les parcours des jeunes LGBT ou identifiés comme tels, ou sur la question des injures et des harcèlements dans le système scolaire, on se rend compte qu'on est essentiellement obligé d'aller voir les résultats du souvent au Québec ou dans les travaux de langue anglaise, mais qu'il n'y a quasiment rien dans le champ français, et que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à explorer, et là aussi ce serait bien de remettre ces analyses à l'épreuve d'un nouveau terrain. Et dernièrement, on a eu des chiffres un peu plus récents avec l'enquête qui a été menée par Ségolène Couchot-Chiex, Benjamin Moniard et Gabriel Richard autour des questions de cybersexisme, où enfin on en avait un petit peu dans les résultats sur les enquêtes sur le climat scolaire, mais de manière très ténue. On a enfin des vrais chiffres sur le vécu des discriminations homophobes et transphobe, homophobe pour cette enquête, dans l'espace scolaire, ce qui, d'une certaine manière, n'existait pas du tout dans le champ français jusque-là. Et donc, on voit vraiment qu'on a là quelque chose à... Et c'est ça qui est important pour nous, en tant que chercheurs, à investir. Et du côté, justement, de la transphobie, ça commence à être investi aussi par les travaux d'Arnaud Alessandrin, mais c'est vraiment un champ qui s'offre à nous.
Caroline, Fabrice qui voulait... Excuse-moi, après,
Caroline, juste un petit point pour mettre en tension la question du point de vue des rapports sociaux de sexe et des rapports sociaux de race, c'est que y a probablement... Ce que tu dis de l'effet qui pourrait éventuellement être bénéfique sur l'acceptabilité, au moins de la discussion, sur la notion de genre, l'effet bénéfique de la polémique ou de la mise en polémique, je pense qu'il n'y a pas l'équivalent, en tout cas si on raisonne sur la question de l'islam, d'accord, et l'entreprise politique qui a conduit à incriminer le voile, ça n'a pas les mêmes effets. Et là, au contraire, c'est un effet de diffusion qu'on voit, par exemple, dans les établissements scolaires, mais aussi dans les ESP, et jusque dans les mouvements féministes, de conflictualité extrêmement dure autour de cette question. Et là, pour le coup, ça ne facilite pas du tout la discussion, ça durcit, au contraire, les rapports raciaux.
Merci. Caroline ?
Oui, je rejoins bien sûr Gaëlle sur la question des chiffres, qui est une question récurrente quand on parle de façon générale des violences ou des discriminations. Et puis en Suisse, effectivement, on a beaucoup de peine aussi à pouvoir avoir ce genre de chiffres. Les seuls chiffres qu'on peut avoir, c'est ceux du suicide, beaucoup plus facilement, mais beaucoup plus le suicide chez les personnes gays. Donc on a affaire à une logique de genre qui se rejoue, où comme il y a des effets de santé publique historiques davantage liés aux homosexuels, il y a eu davantage aussi de financements qui ont été donnés sur ces questions-là. Ce qui fait que du coup, quand on va avoir accès à certaines données, on a de nouveau affaire à des rapports sociaux de sexe, puisqu'il y aura justement certains chiffres qu'on va avoir et d'autres qu'on attend toujours. Ça, c'est le premier point sur la question des chiffres. Et du coup, en Suisse, et plus précisément à Genève, parce que c'est vrai qu'on parlait des tensions politiques tout à l'heure, moi je suis beaucoup ce qui se passe en France, et en Suisse, comme on a un conseil fédéral, on n'a pas en fait une seule personne qui va sortir du lot, même s'il y a un ou une présidente à l'année. On voit que le conseil fédéral, c'est une manière, avec ses avantages et ses inconvénients, d'avoir différentes couleurs représentées. Puis le désavantage, c'est que ça va lentement, mais lentement. Donc ça, c'est vraiment justement une autre paire de manches. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas sentir de la même manière ces oppositions-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les sent pas, bien au contraire, dans le sens où beaucoup de choses qui sont dévolues à l'école vont se jouer dans les cantons en Suisse. Donc il y a beaucoup de pouvoir lié à l'éducation et la formation dans les cantons. Donc là, par contre, on va se retrouver confronté à la couleur politique du conseiller d'État ou de la conseillère d'État du canton en question qui s'occupe de ces questions-là. Et à titre d'exemple, j'étais à la radio il y a une année et demie, face justement aux représentants de l'éducation de mon canton d'origine où je ne vis plus. Et il avait fait annuler un atelier sur les injures sexistes et homophobes qui avait très bien marché, et les étudiants et les étudiantes étaient à nouveau inscrits et inscrites à cet atelier. Et donc à la radio, justement, il disait que la théorie du gender n'entrerait pas dans ces écoles et n'entrerait pas en Valais, en fait. Donc ça, c'est aussi une manière de voir que même si on ne peut pas avoir des conflits aussi polarisés en Suisse, parce que du coup, justement, ça se répercute dans les cantons, on voit que les logiques qui ont été décrites, elles se reconfigurent non seulement à l'intérieur des cantons, mais aussi à l'intérieur, en fait, des équipes enseignantes, parce qu'on va trouver au sein même des établissements, comme partout, des personnes extrêmement motivées et qui font plein de choses sur ces questions, et puis un petit noyau très réfractaire. Donc ça, c'est aussi justement une manière de voir comment ça se reconfigure. Et pour revenir aussi donc sur les questions d'homophobie et transphobie, ce qui a été fait, alors ça c'est à Genève, pour enfin parler de ces questions, en fait, c'est qu'il y a eu une mobilisation du tissu associatif, c'est ce qui arrivait souvent aussi avec les mouvements féministes à l'époque, c'est le tissu associatif qui a eu l'idée, en fait, de regrouper tous les acteurs et actrices sur les questions d'éducation. Donc ça concerne directement notre panel, parce que du coup, la première chose qui est venue en tête, je parlais des taux de suicide plus élevés en raison des violences et des discriminations notamment, donc le premier point qui a été vraiment souligné par le tissu associatif, ben, c'était la question de l'éducation et de la formation, et de la jeunesse de façon plus générale. Donc ce qui a été mis en place et qui a porté ses fruits ensuite de manière très forte, c'est qu'il y a des assises qui ont été organisées sur 2 jours, avec une partie très académique, très liée aux sciences de l'éducation aussi d'ailleurs, avec des chercheurs et chercheuses de tout horizon. Il y avait vraiment les praticiens et praticiennes, les parents et les politiques. Donc les politiques ont été invités pour nous dire justement ce qu'ils et elles faisaient concrètement. Et bien sûr que ça a été filmé, il y a eu un rapport qui a été fait, on a donné rendez-vous à ces personnes 2 ans plus tard. Et ça, en fait, ça a été extrêmement constructif parce que ça a aussi permis justement de poser les choses sur le déni de ces questions-là, alors que les principales injures aussi, comme on en parlait tout à l'heure dans les cours de récré, sont quand même très liées au sexe, au genre ou à l'orientation affective et sexuelle. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, pour débloquer ces situations, c'est vraiment les apports des recherches, plus la présence des politiques, plus les terrains, que ce soit justement, il y avait des associations aussi de jeunes, les parents, etc., pour se mettre enfin ensemble autour d'une table. Alors, bien sûr que c'est faisable, Genève, c'est petit en plus comme canton, mais cette échelle-là nous a permis maintenant, en fait, d'avoir ensuite une directive du département de l'instruction publique qui a été envoyée à l'ensemble des établissements qui encourageaient la lutte contre les discriminations, dont, en fait, l'homophobie et la transphobie. Donc ça a été un moment clé pour justement se dire comment on peut ancrer ces aspects-là. Et puis depuis, il y a 2/3 des établissements du post-obligatoire qui ont eu des projets sur ces questions-là. On a fait un premier projet pilote qui a été reconduit au secondaire 1, c'est-à-dire les élèves qui ont 12-15 ans. Et on a fait un projet pilote au primaire qui a été fait sous forme de formation obligatoire pour l'ensemble du corps enseignant, qui travaillait à la fois du coup sur les questions des disciplines et de la formation professionnelle. Donc ça va lentement, mais quand ça démarre, les choses se posent. Mais on n'est pas du tout à l'abri, bien sûr, d'un revers, puisqu'on a des aspects politiques qui vont nous arriver en pleine figure dans pas longtemps également, mais qui sont déjà passés en France.
Merci. Alors on va faire un dernier tour de table pour ensuite avoir un temps suffisant pour l'échange. Donc pour terminer, même si ça a déjà été évoqué par les unes et les autres, j'aimerais qu'on en vienne à s'interroger sur les formes de renouvellement que vous identifiez. Alors, il a déjà été beaucoup question d'articulation. Fabrice, tu voyais les parallèles, les parallélismes entre rapports sociaux de sexe, de classe et de race pour les enfants de migrants en particulier. Et donc, on a vu ces dernières années dans le champ des sciences sociales le concept d'intersectionnalité qui est de plus en plus mobilisé. Donc comment vous voyez justement le renouvellement de ces questions et comment justement des approches intersectionnelles pourraient contribuer à cet enjeu d'émancipation, parce que j'aimerais, même s'il en a été question tout au long de la table ronde, il y a des enjeux sociopolitiques qui sont majeurs et des enjeux en particulier d'émancipation. Alors, peut-être Gaëlle, si tu veux commencer.
Alors, avant même de parler d'intersectionnalité, j'ai envie de dire que dans un des renouvellements moi, que j'identifie actuellement, c'est autour des questions d'éducation à la sexualité, où on a notamment un certain nombre de thèses en cours ou qui viennent d'être soutenues, qui reprennent cette question plus du tout justement dans ces perspectives d'éducation à la santé, mais qui les renouvellent dans une perspective que j'ai envie de dire féministe, ou en tout cas en travaillant le concept de genre et en voyant comment finalement cette éducation à la sexualité, il y avait déjà des travaux naturellement là-dessus, peut être là aussi re-questionnée et à la fois dans l'histoire des idées et à la fois aussi dans la mise en œuvre avec des perspectives beaucoup plus inclusives pour les élèves et puis pour l'ensemble des minorités, avec toujours cette idée que cette minorité va nous permettre de réinterroger les normes dominantes et que reprendre le questionnement à partir de ces positions qui ont l'air marginales permet à un moment donné à une vertu heuristique extrêmement intéressante. Et donc je pense que ça a une vertu, c'est intéressant à la fois en termes de recherche, mais ça va aussi être intéressant en termes de ce qui est possible pour l'action éducative vis-à-vis des élèves dans des perspectives émancipatrices. L'autre champ, ça va être, je pense effectivement, la question de l'intersectionnalité qui a été travaillée, d'une certaine manière, il y avait déjà eu des croisements, je pense, dans les travaux féministes il y a quelques années maintenant, il y a 20-30 ans. Finalement, à un moment donné, on a plus beaucoup réfléchi d'un point de vue théorique sur ce concept, comment est-ce qu'il fallait penser, plus que sur son opérationnalisation. Et peut-être que là où il y a vraiment un champ, et on l'a vu lors des journées d'études de Créteil sur penser l'intersectionnalité en éducation, il y a vraiment un champ qui s'offre à nous avec des premiers travaux qui arrivent, des chercheuses ou des chercheurs qui relisent aussi leurs travaux à partir de cette orientation pour reproduire à nouveau de nouvelles analyses. Et c'est sans doute là où il va falloir creuser justement pour dépasser uniquement ces discussions théoriques, mais voir finalement comment est-ce que l'épreuve du terrain nous permet de repenser aussi les choses.
Merci. Fabrice, rapidement.
Oui, juste dire, citer les quelques pistes sur l'intersectionnalité des travaux de Claude Zeidman à la fin des années 90, qui avait formulé un certain nombre d'hypothèses autour de ça. Pour ma part, je resterai sur la question de se dire, là où renouvellement il y a encore nécessité, c'est sur la réinterrogation de la manière dont on aborde au fond les questions d'égalité. Parce qu'on est barré d'une certaine manière par le discours de l'institution scolaire qui a tendance à mettre l'égalité comme une valeur dans le ciel des idées. D'accord ? Or, toutes les questions qu'on se pose, c'est dans l'ordre matériel, d'accord ? Des pratiques et des manières de fonctionner, de faire. Donc il s'agit de déplacer les choses. Et je trouve que la formulation de Jacques Rancière est très stimulante par rapport à ça. Dans son bouquin qui s'appelle « Au bord du politique », il nous dit « L'égalité, je le cite, n'est pas une valeur que l'on invoque, mais un universel qui doit être présupposé, vérifié et démontré en chaque cas. » Et je trouve que là, il y a un vrai renversement paradigmatique, c'est de se dire « La question, elle n'est pas de poser une fois pour toutes l'égalité, c'est qu'on la présuppose, c'est un postulat. » Il nous dit ça aussi dans le fameux bouquin sur l'éducation. C'est un postulat, c'est indémontrable, mais par contre, le poser a un certain nombre de conséquences politiques. Et il faut qu'on tire les conséquences politiques, d'aller vérifier, d'aller démontrer, non pas qu'il y a des inégalités, mais que l'égalité n'est pas appliquée. Et ça renverse, à mon avis, ça redistribue les responsabilités. Donc il me semble que là, il y a une chose importante. La deuxième conséquence pour moi, qui vaut aussi pour la recherche, c'est qu'on ne peut pas travailler... ça me semble quand même très problématique de travailler les questions d'égalité et d'émancipation sans interroger les manières de faire de la recherche. C'est-à-dire comment on va travailler avec les gens concernés, avec les premiers et les premières concernées, d'accord ? Pas dans un rapport de surplomb, ce qui pose un sacré problème du point de vue de l'arène académique, qui est sur d'autres espaces, avec d'autres sources de légitimation, etc., ne serait-ce qu'à travers les publications. Ça pose des défis de cet ordre-là. C'est-à-dire, comment on va construire, au fond, une recherche ? Moi, je l'inscrirais sous l'égide un petit peu de la sociologie publique, au sens de Michael Buravoy. Et il me semble que là, il y a des pistes tout à fait importantes, c'est-à-dire d'une sociologie qui a une conscience de ses répercussions politiques et qui, du coup, essaye aussi de travailler sur les répercussions, j'en dirais, internes à l'acte de la recherche.
Rapidement, moi je voudrais surtout là regarder un peu l'avenir en signalant que nos deux collègues Sigolène Couchot-Sieix et Isabelle Collet ont créé il y a déjà plusieurs années une association qui me paraît très très importante, une association de recherche sur le genre en éducation et formation. Francophone, c'est-à-dire à la fois franco-suisse pour l'instant, mais qui rassemblera aussi, rassemble des chercheurs de Belges et Québécois. Et je pense que ça, c'est très important parce que c'est un effort de structuration du milieu de la recherche dans ce domaine du genre, qui d'ailleurs, enfin, c'est à la fois la question des rapports sociaux de sexe, mais je pense que très très spontanément, enfin je veux dire, il va être possible, il me semble, d'envisager aussi les rapports de classe et les rapports de race, mais aussi la question de l'homophobie, etc. Et là, je crois que par rapport à l'idée justement d'une structuration du milieu de la recherche en sciences de l'éducation, mais enfin dans toutes les sciences sociales et humaines qui travaillent sur ces questions, je pense que c'est quelque chose de tout à fait important. Créer une communauté de recherche sur ces questions avec des symposias dans les colloques, des confrontations et probablement assez vite maintenant une revue sur la question. Voilà, je voulais terminer là-dessus.
L'AECSE a organisé le précédent colloque était sur le genre en éducation, en formation et dans le monde du travail. Caroline ?
Oui, moi je vois trois principales pistes. Une piste épistémologique, une méthodologique et la troisième en termes de dispositif. Brièvement, au niveau épistémologique, je pense que vu tout ce qui a été dit, c'est pas tellement l'histoire de réinventer la roue, mais plutôt d'articuler des aspects qui des fois restent isolés. Et je pense que si on articule vraiment la lutte contre les violences et les discriminations d'une part et la promotion de l'égalité des droits humains d'autre part, on a vraiment à y gagner dans la façon dont on va poser les choses en tant que telles. Et va avec aussi justement des clarifications conceptuelles, j'ai envie de dire. Et puis quel que soit le mot qu'on utilise pour penser l'articulation des discriminations, moi par exemple... J'aime pas vraiment ce terme d'intersectionnalité parce que c'est comme si tout d'un coup le racisme rencontrait le sexisme, ils disaient bonjour, ils se croisent la main, puis après ils s'en vont. Donc là, on pourrait revenir aussi à beaucoup de travaux qui ont été élaborés sur ces questions, mais en gros, quel que soit le nom qu'on choisit de donner, comment méthodologiquement on va le faire. Donc ça, c'est la deuxième piste au niveau méthodologique. Et là, je prends brièvement l'exemple de la recherche que je suis en train de mener dans tous les cycles d'orientation du canton de Genève. Et c'est une manière justement de se dire comment on va voir la façon dont les personnes préviennent les préjugés, les discriminations et les violences. Et je trouve que c'est intéressant de passer à cet aspect de la prévention, c'est-à-dire allons voir ce que les gens font concrètement quand on leur parle de ces questions. Et cet aspect-là, à mon avis, il est vraiment important parce qu'on peut avancer sur deux points en parallèle qu'on a tendance à opposer. Quand on va parler justement de ces questions, plein de preuves vont dire « c'est pas mon job, en fait ». Alors que ça fait partie, par exemple, du plan d'études romans qui chapeaute tous les cantons romans. Mais on entend très souvent ça, donc on revient à ces discours d'opposition. Et finalement, il y a deux points qu'on voit qui ressortent le plus fortement. C'est comment, justement, les adultes se débrouillent au sein des établissements pour faire face aux violences et aux injures, de façon générale, parce que ça, c'est quelque chose d'ordinaire. Et d'autre part, comment c'est inscrit dans les enseignements. Donc c'est aussi observer comment, à travers pas seulement l'histoire ou le français, où c'est plutôt facile, entre guillemets, de parler de ces questions, mais comment, dans des exercices de maths, on peut faire des graphiques sur les inégalités salariales. Donc je pense aussi que c'est une manière de montrer que les personnes qui sont très intéressées sur ces questions peuvent avoir vraiment un degré très pointu. Puis les autres qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas trop comment, y a pas mal justement de choses très concrètes à visibiliser qui se fait dans les établissements. Et donc je termine avec la question du dispositif. C'est-à-dire que je reviens en fait au fait de décloisonner des champs qui sont dissociés. La recherche, comme elle vient vraiment d'une, volonté politique. On voit que ce qui ne marche pas du tout, bien sûr, c'est l'imposition top-down. Donc montrer aussi qu'en termes de recherche, aller bien sûr prendre le point de vue des personnes concernées sera beaucoup plus intéressant pour le prochain plan d'action plutôt que de l'imposer sur le terrain en tant que tel.
Merci. Alors on va passer à un temps d'échange.
Merci. Philippe Opirone de l'ESPE d'Aquitaine. J'avais une question pour Fabrice Dume. Il a parlé de formation à l'ESPE, l'enseignement donc, des questions liées à l'ethnicisation et au racisme et la discrimination. Je voulais en savoir un peu plus. Merci.
S'il y a d'autres...
Juste peut-être, vous pouvez préciser, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voudriez savoir?
Je voulais savoir justement si vous avez eu un terrain là-dessus, et des observations par rapport à la formation que l'on donne aux futurs enseignants et intervenants dans d'autres mentions, par exemple, conseil de principale éducation. Concernant voilà, une formation professionnelle sur ce genre de questions.
Il y a Arnaud, Isabelle, est-ce qu'on peut prendre des questions là ?
Oui, Arnaud Dubois, je suis maître de conférence à l'Université de Cergy-Pontoise. Ma remarque concerne ce que vous avez appelé les rapports sociaux de race. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Je suis clinicien d'orientation psychanalytique. Enfin, je travaille. Mais quand je suis frappé dans mes travaux de recherche, quand je vais dans des établissements scolaires, de la question de la couleur qui est évoquée par la couleur politique. Je m'explique. J'accompagne une équipe par un dispositif d'analyse de pratique cette année. Dans un lycée professionnel à Paris, en 19e. Je rentre dans l'établissement pour la première rencontre avec l'équipe. Ce qui m'a frappé, c'est que je ne vois que des jeunes filles noires. Et après, je rencontre les profs. Et là, je ne vois que des profs blancs, en tout cas plutôt très majoritairement européens. Je vous raconte ça, ça peut sembler anecdotique, mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et je pense que parmi vous dans la salle, d'autres ont fait la même expérience. Et à force de rencontrer des situations comme celle-là, je me dis, mais ça relève d'un déni total. C'est-à-dire que j'ai fait la remarque à une des enseignantes que je rencontre, qui me dit, ah ben non, mais ça, c'est tabou. Dans l'établissement, on n'en parle jamais.
Tabou.
C'est tabou dans l'établissement. Ben, il n'y a pas que dans l'établissement, vous l'avez dit. Hein. Mais moi, je dis clinicien, je me dis là, il y a quelque chose qui relève du déni et quasiment d'un pacte des négatifs. Mais alors, le pacte des négatifs, c'est un concept en psychanalyse qui concerne les groupes. Là, on n'est pas sur un groupe, c'est une masse, quoi. Enfin, c'est au niveau. Alors voilà, je vous livre cette remarque pour peut-être solliciter de votre part des réactions, parce que je trouve ça extrêmement frappant et très courant. Et je trouve que. Alors, ça fait une vingtaine d'années que je circule dans des établissements scolaires. Je trouve que ça s'est accentué et qu'il y a une ségrégation dans certains établissements qui est devenue extrême, je trouve. Alors, vous voyez, je vous dis, je ne suis pas spécialiste. C'est des observations, simplement, ce que moi, je vois dans les établissements scolaires, ce qui s'appuie sur aucun chiffre. Mais enfin, je voulais vous en faire part.
Alors, moi, j'ai posé une question intersectionnelle. On va reparler de sexe. C'est une vraie perplexité que j'ai et qui est apparue dans vos interventions, c'est-à-dire sur le fait que finalement la manif pour tous a été un allié objectif parce que ça a permis de... Bon, je charrie un peu. Mais ça a permis d'amener sur le débat cette question et après un premier choc, d'avoir enfin dans la presse des articles compétents et éclairés, y compris dans la presse de droite, en expliquant que somme toute, enseigner l'égalité des sexes, bon, le genre peut-être c'est pas bien, mais enseigner l'égalité des sexes, on pouvait pas être complètement contre. Et on s'est mis à débattre sur l'espace public de cette question d'égalité. Alors que, comme tu disais, Fabrice, sur le voile, enfin, sur les questions ethno-raciales, le fait que ça arrive dans la presse, ça a absolument rien débloqué et pas lancé de débat, et au contraire, a plutôt verrouillé un certain nombre d'entrées. D'une part. D'autre part, dans les mouvements féministes militants et aussi dans la recherche, on fait la constatation que des remarques racistes passent beaucoup plus mal que des remarques sexistes qui peuvent passer à travers parce qu'on ne les détecte pas, donc on ne se sent pas nécessairement légitime d'intervenir. Quand je vais faire des observations en classe, je vois des enseignants et des enseignantes qui démarrent tout de suite sur les remarques racistes des élèves et qui ne les laissent pas passer. Et les remarques sexistes passent à travers, et en particulier le mot pute, ou pédé d'ailleurs, hein, qui sont prononcés à longueur de temps, et que voulez-vous, si on intervenait à chaque fois, on s'en sortirait jamais, et ça, ça passe à travers. Et en même temps, je suis assez convaincue qu'il y a un racisme complètement, enfin, invisible, latent, bah, du fait par exemple qu'on peut avoir des populations essentiellement non blanches en enseignés, des populations essentiellement blanches en enseignants, et que absolument personne ne voit à quel moment ça pourrait avoir un rapport avec les questions ethno-raciales. Et je trouve qu'on est vraiment dans une situation schizophrénique parce que tout ça peut cohabiter en même temps sans que rien se connecte. Et ça me laisse perplexe. Je finis par me demander à quel niveau se situe la non-détection du sexisme, ou le fait que c'est pas grave, ou le fait que ce serait dans la nature, et c'est pour ça qu'on peut se le permettre, et la non-détection du racisme, où personne ne va oser dire que c'est dans la nature, enfin, c'est devenu très incorrect, et on va l'habiller de tout un tas d'autres choses. J'ai l'impression que ça joue sur des niveaux différents, mais je n'arrive pas encore à comprendre le système qui fait hiérarchiser par moment différemment sexisme et racisme dans la prise en compte de la part des personnes, des groupes dominants qui en seraient témoins.
Oui, bonjour. Je suis étudiant en troisième année, donc excusez-moi si ma question est un peu maladroite. Vous disiez que l'école produit de la différence, qu'il y a des nouvelles formations qui se font pour les enseignants, qu'il y a de nouvelles pédagogies mises en place pour la formation des enseignants, etc. Sur ces espèces de modules d'éducation A, est-ce que c'est pas peut-être la forme très scolaire et la didactique scolaire qui empêche peut-être de penser cette éducation, et ma question elle est-ce que c'est peut-être pas l'éducation non formelle avec les associations militantes issues de l'éducation populaire qui doivent intervenir, du coup changer un petit peu le curseur sur ces associations qui doivent intervenir peut-être dans le cadre scolaire.
Fabrice, parce que tu as eu pas mal de questions.
Oui, c'est vrai que j'ai dit rapport de race, etc., en présupposant comme si, d'accord, c'était une espèce de bien-entendu, et j'entends bien qu'en fait, je manipule des concepts avec des paradigmes, etc., qui ne sont pas forcément partagés, diffusés, et que je n'ai pas pris le temps de le faire. Et je pense que la question, ou les questions que vous souleviez, elles renvoient à ça, c'est-à-dire le fait que quand on n'est pas armé intellectuellement pour penser ces questions-là, on ne sait pas quoi en faire. Et on sait d'autant moins quoi en faire qu'on est effectivement dans un tabou et donc dans un déni de réalité. Vous avez tout à fait raison de pointer, c'est-à-dire qu'il y a un déni de réalité, alors que les futurs enseignants, quand ils vont sur les terrains, ils peuvent être confrontés effectivement à ça. Dans une enquête qu'on a fait en 2015, ou qu'on a terminée en 2015, sur l'état de l'enseignement autour de ces questions de discrimination dans trois ESP, les trois ESP d'Île-de-France. On a même des inspecteurs généraux qui disent je vois ça, mais la loi de l'école, c'est tout le monde est pareil. C'est dire je ne peux pas poser. Voilà. Donc il y a non seulement le tabou politique, mais je pense qu'il y a en même temps autre chose derrière, qui est que si les gens sont frappés par la question de la couleur dans les établissements, on peut se dire qu'il y a un principe de réalité, d'accord. Mais le problème, c'est qu'en même temps, on n'a pas les cadres intellectuels pour regarder et penser. Parce que si on voit les couleurs et qu'on en déduit un certain nombre de choses, malgré nous, on est pris dans le seul discours qui fait quelque chose de la couleur, parce qu'il les produit, ces catégories de couleurs, c'est le discours raciste. Or, il n'y a pas, ou très peu, où les paradigmes de l'ethnicité, je disais tout à l'heure, sont tellement peu diffusés que le terrain est occupé par la seule manière de formuler les choses, qui est laisser nos représentations racistes qui sont tellement banales qu'on les partage, d'accord, et que les enfants sont socialisés très, très tôt à ces manières de voir-là. Donc je pense que le problème de ce déni de réalité, il est extrêmement profond de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il empêche de nous donner des armes pour pouvoir aborder ces questions autrement qu'en laissant faire nos stéréotypes racistes. Voilà. Là, je pense qu'il y a vraiment une urgence politique tout à fait majeure. Sur la question de la formation, ce qui en découle, c'est que dans l'enquête qu'on a faite donc sur les trois espèces d'Île-de-France, hein, je ne sais pas quelles sont les autres situations dans les autres espèces, ça mériterait qu'on en discute, il y a d'abord à peu près aucune formation sur ces questions-là. Lorsqu'il y a éventuellement un cours qui pourrait aborder ces questions-là, c'est fait dans un cadre optionnel, parce que c'est assimilé à des éducations à. Or, excusez-moi, mais la question de l'égalité de traitement, ce n'est pas une question d'éducation à, c'est une question fondamentale de la manière dont on fait son travail et aussi du cadre dans lequel on travaille, c'est-à-dire comment fonctionne cette institution. Voilà. Il me semble que là, c'est absolument fondamental de se donner les éléments. Je m'arrête sur ça, mais ben, je n'ai pas autre chose à dire que là, il faudrait vraiment qu'on travaille. Je voudrais juste dire, excusez-moi, puisque tout à l'heure, tu parlais de l'ARJEF, des réseaux, enfin, des projets de revue, etc. Je voulais vous dire qu'on essaye de structurer des espaces pour travailler ces questions. On a monté, fin 2012, entre chercheurs et professionnels, un réseau national de lutte contre les discriminations à l'école, qui est adossé à l'IFE, l'Institut français de l'éducation. Voilà, donc une invitation, si ces questions vous intéressent, à rejoindre, à aller voir, etc. On a ouvert un autre espace qui est plus académique, ou qui se veut plus académique, qui est le réseau international éducation et diversité entre Québec, la Suisse, la Belgique et la France, notamment pour travailler la question de la formation des enseignants. Voilà, sur cette question-là, on a à Genève, en 2018, un colloque, une rencontre, les troisièmes rencontres du RIED, voilà, il y a jusqu'au 12 novembre, si vous voulez, pour déposer des communications, mais aussi pour venir, je veux dire, confronter autour de ces questions-là.
Oui. Nicole ?
Oui, très rapidement. Très rapidement, oui, sur la question qui avait été posée de l'éducation à et du rôle des associations. Moi, je voudrais dire d'abord que, pour aller dans ton sens, c'est pas du tout une question d'éducation à, c'est quelque chose de central. Si on veut changer l'ordre sexué dans le système scolaire, il faut que les enseignants et tous les personnels qui sont dans le système s'y mettent, et je dirais même à la limite les élèves, d'une certaine façon, et qu'en ce moment, justement, on observe une espèce d'externalisation de toutes les questions d'éducation et d'égalité. C'est un piège, à mon avis, que le système politique cautionne à tort. Car c'est pour quelques militants qui viennent une demi-journée faire une éducation à l'égalité, puis le reste du temps, soyons sérieux, on fait le truc habituel. Je pense que c'est très grave ce qui se passe actuellement dans le système scolaire français.
Je tenais à remercier toutes les participantes et participants de cette table ronde. On n'a pas pu aborder...
Et remercier Nassira qui l'a organisée.
Oui.